une remarque d'ordre général, d'ordre théorique, qui permettra de mettre l'accent sur l'aspect, me semble-t-il, très fort du papier, et en même temps qu'il faudrait peut-être davantage valoriser. Alors je précise tout de suite que c'est une drôle d'histoire autour de ce papier, parce que j'aurais dû le dire plus tôt, ce qui va pas, enfin, il a été soumis à une revue dans laquelle un dossier collectif peut.
Qu'on essaie de coordonner tous les deux.
Voilà. Donc c'est un peu bizarre, j'essaie de pas trop verser dans une discussion sur la structure du papier, mais en même temps c'est difficile de s'en empêcher. Donc j'aurais essayé d'abord cette remarque un peu générale, d'ordre théorique, puis des remarques plus ponctuelles, deux questions plus ponctuelles, ensuite deux remarques sur la construction du papier, bon je ne sais pas si on la replace ici, mais voilà, et puis une question un peu normative et méchante pour terminer. Voilà. Alors, moi ce qui me semble être le point fort du papier, mais en même temps un point fort que tu pourrais davantage mobiliser, c'est que tu introduis la question de la morale. Alors je ne sais pas comment tu pourrais davantage mobiliser de faire remonter le titre, mais en tout cas je pense que c'est vraiment la question essentielle. Bon. Tu expliques bien comment les choix en matière de mobilité sont plus justifiés par une dimension idéologique, par une logique majoritaire, par des enjeux de redistribution, mais ils sont justifiés par des principes moraux, hein, supérieurs, supposés être partagés par tous les groupes. Ces choix ne sont plus justifiés en fonction, en référence à des groupes, à des intérêts, ils sont plus portés par des acteurs qui défendraient ces intérêts, mais ils sont justifiés par rapport à des intérêts d'entités tierces que sont la nature, la terre, l'humanité, etc. Et là, il me semble qu'on est vraiment au cœur des contradictions du développement durable, hein. Cette espèce de mode post-politique de définir l'intérêt général, et qui pose dès le départ que, dès lors que l'humanité entière est concernée par l'entropie environnementale, il y a chaque individu, chaque groupe, contribue à égale partie à sa destruction, et parallèlement, chaque groupe, chaque individu doit contribuer à son sauvetage. Nivellement des responsabilités, des capacités d'action. Bon, là, je trouve que on est en plein là-dedans, tu touches à quelque chose d'essentiel sur le développement durable en développant le poids des justifications morales dans le choix urbanistique. Alors, par contre, je trouve que c'est insuffisamment valorisé dans ton papier. Je trouve qu'il y a une retenue dans ton papier. Tu ne vas pas jusqu'au bout de cette question-là. Et notamment, il y a un spectre qui plane sur ce papier, mais qui n'est pas mentionné, sauf erreur, tu l'as mentionné dans ta présentation orale, c'est le spectre du néolibéralisme. Tu l'as expurgé de ton papier, je me suis demandé pourquoi, et je vais essayer de dire que ça me semble assez essentiel de le réintroduire, de l'expliciter, de le revendiquer et de le connecter avec la question de la morale. Alors pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, le Foucault que tu mobilises, c'est justement le Foucault qui théorise la gouvernementalité néolibérale. Hein. C'est celui qui dit que le néolibéral, c'est pas une idéologie portée par un certain type d'acteurs ou d'organisations politiques, c'est pas uniquement une option politique dans un débat politique et idéologique. C'est plus globalement un état du monde et des pratiques. C'est un ensemble de conceptions, c'est un bain d'imaginaire et de pratiques dans lequel nous sommes tous impliqués, nous sommes tous des êtres néolibéraux, c'est la nouvelle règle du monde, pour parler comme les autres. Et du coup, et tu dis très bien, il serait illusoire d'aller chercher l'origine de ce bain néolibéral dans des entreprises politiques ou idéologiques. Bien moment, ben, je crois qu'il est relativement illusoire de chercher à identifier les acteurs et les lieux du pouvoir porteurs de cet objectif. Ça m'a fait penser à une citation de Lyotard que j'ai trouvée dans un article de Laurent Jean-Pierre dans Fresh Theory, où il dit le néolibéralisme, alors je ne sais plus s'il parle du néolibéralisme ou du capitalisme, en gros, ça marche pour les deux. En gros, c'est pas quelque chose qui est au-delà d'une citadelle, d'une barricade qu'il faut aller détruire. Il est partout, on est dedans, il nous traverse nous-mêmes. Voilà. Et donc, les petites entreprises d'analyse des politiques publiques très axées sur la sociogenèse, des acteurs qui portent, est assez illusoire, dès lors que, voilà, on est dedans, c'est compliqué d'en sortir. Bon. Et ça, c'est vraiment central dans ton papier, et à mon sens, tu as intérêt à le valoriser plus fortement. Alors, l'autre raison pour laquelle je dis que c'est le point important de ton papier qui va le valoriser, c'est parce que ce que tu racontes sur la place de la morale dans les choix en matière de mobilité m'a fait beaucoup penser à ce qu'écrit Wendy Brown dans Les Antinomes de la politique mondiale, qui s'intéresse notamment au néolibéralisme, à ses liens avec le néoconservatisme et au lien entre néolibéralisme et la question morale, bon, et dans une perspective foucaldienne. Et ce qu'elle nous dit est très intéressant et à mon sens est complètement en phase avec ce que tu racontes toi sur les mobilités. Bon. En gros, elle part du paradoxe que, bizarrement, en même temps que le bain néolibéral s'est répandu, on baigne tous dedans, etc., et en même temps, on attendrait de ce bain néolibéral qui fasse de nous des êtres amoraux, conduits par la conquête de nos intérêts personnels, des êtres maximisateurs, etc. Parallèlement à cette extension du domaine du néolibéralisme, on a une extension de tout ce qui est croisade morale, entreprise morale, dont le paroxysme, c'est les regains des mouvements religieux, le fondamentalisme de tout le monde. Bon. Alors, elle part de ce paradoxe, et elle explique pourquoi, finalement, il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses-là. Parce que, d'un côté, le néolibéralisme nous enjoint à devenir des êtres maximisateurs pour être plus productifs, il promeut la liberté, il enjoint l'entrepreneuriat. C'est une technique de contrôle d'autrui et de soi par accroissement plutôt que par diminution de la liberté, c'est tout le paradoxe, vers moins distance, etc. C'est exacerbation des logiques de contrôle par accroissement des logiques du choix. Bon. Et comment on fait pour rendre cette liberté conforme à la reproduction du système économique, du système de pouvoir? Ben, c'est justement en introduisant de la moralité. En introduisant de la morale, et la morale, c'est comme caractéristique de ne pas être négociable, pas mal se prêter à un débat pluraliste, comme la politique, l'idéologie, etc. Et donc, on a à la fois des logiques de renforcement des incitations à l'autonomie, à l'entrepreneurisme, etc. Et en même temps, on a renforcement des entreprises morales portées par l'État. Bon. Donc on arrive à ce paradoxe où on a à la fois de la dépolitisation, de la démobilisation politique, mais un renforcement de l'État, et notamment un renforcement de l'État agissant au travers de la valorisation de chaînes moraux. Bon. Alors, il me semble que c'est complètement ce que tu décris, quand tu parles par exemple de la construction post-classiste des enjeux, des cibles, du renforcement des capacités de l'État à organiser, plutôt à moraliser les mobilités, quand tu parles de démobilisation autour des questions de transport, hein, bah, pour moi, c'est je dirais tout à l'heure, mais sur la question des noms alignés, je pense qu'il y aura tout un travail à faire sur la question du ramollissement total des mobilisations des usagers de transport. C'était très fort dans les années 70 et c'est quasiment disparu complètement. Donc voilà, je pense que tu aurais vraiment intérêt à aller regarder Wendy Brown pour établir ce lien théorique entre démobilisation, dépolitisation, moralisation, démobilisation. Alors par contre, du coup, je vois moins l'articulation avec Bourdieu, mais bon, alors, voilà, donc ça c'était pour la remarque générale. Sur les questions un peu plus ponctuelles, alors qui vont en partie aller à l'encontre de ce que je viens de dire. Je suis assez convaincu par tout un aspect, les approches foucaldiennes du néolibéralisme, beaucoup plus que par les approches, notamment histoire des idées sur le néolibéralisme, les approches radicales sur le néolibéralisme, qui d'après moi, ratent cette question de la moralisation. Moi, la question que je me pose toujours quand on dit ça, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant ? Parce que à un moment donné, tu dis bon, aujourd'hui, bon, les choix en matière de mobilité euphémisent des hiérarchies sociales. Aujourd'hui, on a des techniciens qui ne font plus leurs choix sur des références à des groupes ou à des idéologies, mais sur des fondements techniques et moraux. Bon, et en même temps, est-ce qu'il en a jamais été autrement ? Est-ce qu'on a déjà vu un technicien valoriser ses choix techniques en référence à des groupes sociaux et à leurs intérêts de classe ? Tu vois ? Est-ce qu'on n'a pas toujours été confronté à des techniciens qui dépolitisent leurs choix techniques? Ça, même avant le néolibéralisme. Donc, voilà, je me demande toujours, quand je vois des travaux qui pointent la présentation dépolitisée des choix, ça a toujours été le jeu politique de dépolitiser les choix. Bon. Voilà, qu'est-ce qui est nouveau, du coup, maintenant? Deuxième petite question, beaucoup plus ponctuelle, c'est justement sur les intérêts qui s'opposera à la mobilité douce, safe and green, etc. Bon, à un moment donné, tu dis qu'ils sont perdants, qu'ils ont été marginalisés, qu'ils sont renvoyés à des intérêts NIMBY, les taxis, les poujadistes, les conservateurs, les consommateurs, les commerçants, etc. Bon, et en même temps, à un moment donné, tu dis qu'ils n'ont pas tellement perdu ça, puisque finalement, on déplace la question de la bagnole, mais la bagnole n'est pas tellement, elle est plutôt enfouie, cachée, plutôt qu'elle n'est contenue. Donc, comment tu aurais. Enfin, pour moi, il y a un petit paradoxe, hein. Enfin, est-ce que c'est simplement qu'ils ont perdu une victoire symbolique, en, finalement, voyant leurs intérêts garantis par une forme de reproduction, ou des immunités, j'en sais rien. Enfin, il y a un paradoxe entre le fait de dire qu'ils sont refoulés, délégitimés, et le fait de dire que finalement leur intérêt n'est pas si desservi que ça. Sont pas si desservi que ça. Donc ça, c'était la deuxième petite question complète. Après, j'ai deux petites questions plutôt autour de la construction du papier. Ou plutôt la construction du papier et la stratégie de recherche aussi. C'est-à-dire que je reviens à la question de la dépolitisation du discours des policymakers. Donc, je me demande dans quelle mesure il peut en être autrement. Et du coup, pour parler de dépolitisation, est-ce qu'il ne faut pas plutôt décaler le regard par rapport aux policymakers et regarder justement le ramollissement ou la disparition de la scène des mouvements sociaux autour de la mobilité ? Voilà. Bon, c'est une piste. Est-ce que justement ton propos sur la dépolitisation ne serait pas plus mieux servi par en allant regarder la neutralisation des mobilisations ? Bon. Et puis, alors, sur la construction du papier. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu d'artificiel à structurer le papier autour du paradoxe entre le caractère sélectif des choix urbanistiques effectués d'une part et le caractère pluraliste des systèmes d'action mobilisés d'autre part. Bon, d'abord parce que tu montres pas tellement en quoi ce système est pluraliste. C'est un peu considéré comme un postulat, c'est pas tellement établi. Peut-être qu'il faudrait dire, mais en quoi voilà, les systèmes d'acteurs urbains sont pluralistes ? En quoi il y a une dispersion des ressources ? En quoi il y a une multiplication des acteurs ? Et en quoi c'est nouveau ? Bon, alors, je pense qu'il y a d'ailleurs un moyen de rendre plus éclairante cette mise en tension du pluralisme et du consensus, en essayant de voir qu'est-ce qui fait que dans un système pluraliste, traversé par des conflits, des asymétries de ressources, de pouvoir, de préférence, des choix sont faits qui ne semblent pas faire débat. Peut-être, moi, là, j'en reviens à la question de la morale, peut-être que c'est parce que il y a des conflits, mais réglés par des questions de morale. Bon, enfin, en tout cas, cette tension, elle est, je la trouve un peu artificielle en l'état, et peut-être qu'il faut aller. Alors, ma question normative et méchante, pour finir, si je me place du point de vue du vieux con de droite, drôle, on essaie de me faire embrasser parfois, quand on a une approche critique comme ça, c'est très bien, moi je suis d'accord, mais je pense qu'il y a un élément d'éthique de la recherche qui consiste quand même à identifier quelles pourraient être les alternatives à ça. On a ça, c'est pas bien, c'est mal, c'est normativement critiqué par les chercheurs eux-mêmes, et on a envie de dire, mais alors, quoi d'autre ? Ce serait quoi ? Quel est le contrepoint normatif qui fait qu'on attaque cette solution-là ? Bon.
Quand même. Il est là pour ça.
Mais bon, ouais, écoute, je le relis. Et alors, voilà, il y a un article qui est paru récemment dans Le Monde, journal radical s'il en est, après les élections municipales, et qui montrait que parmi toutes les petites villes petites et moyennes qui ont été conquises par le FN, où le FN a fait des très grands scores, celles qui ont échappé à cette logique-là, ce sont celles qui ont justement énormément travaillé à reconquérir leur centre, à y travailler sur l'offre commerciale, sur la mobilité, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça ?
C'était Béziers.
C'est effectivement l'exemple de Béziers qui n'avait pas du tout fait ça. Bon. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait de ça d'un point de vue normatif ? Bon, voilà.